Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est 4h58, nous sommes le lundi 11 février 2019, date visiblement fertile pour les stars puisqu'ils sont nombreux à être nés un 11 février, dont certains chers à notre cœur et surtout à celui d'Eva Rock, comme nous allons le voir. Comme il faut bien que la mort apporte certains privilèges, on va commencer par ceux qui sont décédés. On souhaite donc un joyeux anniversaire quand même à Burt Reynolds, Didier Lockwood, Paul Bocuse, qui nous ont quittés tous les deux l'année dernière. Pensée émue également ce 11 février pour celui qui a été unanimement reconnu par moi-même comme le plus grand acteur de tous les temps. Inoubliable interprète de Frank Drebin dans la mythique série des Y a-t-il un flic ?
Tel le nain devant un urinoir, j'allais devoir placer la barre très haut.
Irremplaçable Leslie Nielsen, dont le flegme faisait tout le sel de cette saga comique.
Frank, pourquoi tu ne veux pas avoir d'enfant ?
Et quand j'ai voulu adopter cette jeune Suédoise de 18 ans ?
Parmi les vivants, nés un 11 février, on souhaite un joyeux anniversaire à En vrac n'étant pas une personne, hein. Jacques Pradel, Sonia Roland, Kelly Slater, le surfeur qu'on aurait tous aimé être, Jennifer Aniston, la colocataire que Jérôme Lacroix aurait rêvé d'avoir dans notre coloc à nous. Oui, le 11 février, on fête aussi l'anniversaire Eva d'un chanteur qui vous attire secrètement, enfin, qui vous attirait secrètement, vu qu'après la diffusion du son qui suit, ça sera plus secret. Oui, joyeux anniversaire à Serge Lama.
Ouais, mais il n'est pas mort, Serge Lama.
Effectivement, Céline, il est en pleine forme, comme je le confiais donc à Eva vendredi.
Il est très sympa, Serge Lama, il est très rigolo.
J'aimerais bien le rencontrer.
Tu l'as jamais rencontré ?
Je vous passerai son 06, Eva. Alors justement, Eva, vous êtes en forme aujourd'hui. Quelles questions vous avez concoctées
mais
pour nos auditeurs ?
Mais c'est l'anniversaire de David Abicard, figurez-vous, notre monsieur revue de presse.
Décidément, c'est vraiment une journée pour
mais
les stars.
Oui. Alors à cette occasion, on s'est demandé quel journal ou quel quotidien, magazine vous lisez, comment vous vous informez si vous ne lisez plus la presse papier. Voilà, vous nous répondez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
C'est une bonne question. Mais formidable. Oui. Céline Dacosta, je crois que sur le fond de la météo, les nouvelles ne sont guère réjouissantes. Si, elles sont bonnes.
Tu vois, il y a une bonne nouvelle, c'est que les éclaircies vont revenir par l'ouest.
Vous voyez toujours le verre à moitié plein, c'est ça qui est bien avec vous.
Il reste un petit peu de pluie, ça c'est plus pour l'est. Et puis les températures commencent doucement à baisser, on en avait parlé, et voilà, c'est le cas.
Merci mesdames, vous écoutez. Debout les copains, c'est parti, vous êtes chaud ?
Je suis malade.
Oui, bon, on prend un verre au caboose et on y va quand même.
Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 février. Merci d'avoir choisi Europe 1. Très bon réveil à tous, il est 5h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce lundi 11 février, c'est avec vous Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
Les auto-écoles inquiètent pour l'avenir de leur profession. Plusieurs organisations appellent à des blocages dans plusieurs villes de France. Opération Escargot sur le périphérique parisien ce matin. En cause la concurrence des plateformes en ligne qu'elles jugent déloyales. La piste criminelle privilégiée à Lyon au surlendemain de l'incendie qui a tué une femme enceinte et son enfant. La boulangerie au rez-de-chaussée était, semble-t-il, visée. L'établissement avait déjà fait l'objet d'attaques. Et puis les sports, nous reviendrons sur le naufrage du 15 de France de rugby qui a subi hier en Angleterre la plus lourde défaite de son histoire depuis l'après-guerre dans le tournoi des Six Nations, 44-8.
Europe 1.
À quoi ressemblera demain le parcours d'apprentissage pour obtenir le permis de conduire et surtout combien coûtera-t-il ? Les auto-écoles dites traditionnelles s'inquiètent de la concurrence des formations sur Internet. Elles sont bien souvent moins chères et un récent rapport parlementaire remis au gouvernement appellerait à privilégier ces auto-écoles en ligne selon certains syndicats. Le but étant de réduire la facture pour les candidats. Emmanuel Macron en avait annoncé l'intention en novembre. Ainsi, les représentants des auto-écoles traditionnelles appellent à la mobilisation ce matin à Bordeaux, Marseille, Nice notamment, mais aussi une opération escargot sur le périphérique parisien dès les premières lueurs du jour. Claudia Bertram est allée entendre leurs doléances.
Ça fait déjà plus de 30 heures que Jean-Paul et son collègue accompagnent cet élève au volant de la petite citadine de formation.
On fait un petit point sur ce qu'on a vu la dernière fois.
Un apprentissage de la conduite et un suivi personnalisé indispensable, insiste le moniteur.
Si vous voulez, on a une équipe pédagogique, on est capable d'échanger sur la progression d'un élève pour savoir exactement où il en est. Il faut une certaine continuité dans la formation que vous allez apporter. Chose que vous n'aurez sans doute pas dans une plateforme.
Et c'est ce que déplorent les auto-écoles traditionnelles, moins d'accompagnement pour les élèves, donc une formation de moins bonne qualité dispensée par les plateformes. Sans compter, s'agace cette patronne d'école, une concurrence déloyale.
On est obligé d'avoir un local, on est obligé d'avoir une salle de code, tout ceci à un certain prix. Les plateformes qui, elles, emploient des auto-entrepreneurs, moniteurs auto-entrepreneurs, qui ne payent pas de TVA, puisqu'ils ne sont pas salariés.
Des auto-écoles qui dénoncent l'ubérisation de la formation à la conduite, crainte renforcée par une autre mesure, la possibilité pour les candidats de s'inscrire eux-mêmes directement à l'examen, sans passer par l'avis d'un moniteur.
Reportage Europe 1 signé Claudia Bertram.
Il est 5h03.
À Lyon, les enquêteurs privilégient la piste criminelle après l'explosion suivie d'un incendie samedi soir dans le 8e arrondissement. Des traces de substances explosives ont été retrouvées. Une femme enceinte et sa fillette sont décédées. C'était, semble-t-il, la boulangerie au rez-de-chaussée de l'immeuble qui était visée. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte. L'établissement avait déjà fait l'objet de dégradations et son propriétaire menacé par le passé. Enquête ouverte suite à la main arrachée d'un manifestant gilet jaune samedi à Paris. L'homme touché par une grenade de désencerclement a été opéré hier matin. Des photographes, notamment à Toulouse, affirment avoir été délibérément visés par les forces de l'ordre. Par ailleurs, sur Europe 1 hier, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a estimé que les 13 semaines de manifestation avaient provoqué 65 000 cas de chômage partiel. Les maires de plusieurs grandes villes réclament, eux, au gouvernement une réunion d'urgence pour des dédommagements après les dégradations.
Quel numéro de téléphone appelez-vous en cas d'urgence? Le 15, le 17, le 18? Mais n'oubliez pas le 112.
Le numéro d'urgence européen. Figurez-vous que chaque 11 février, c'est la journée choisie pour nous sensibiliser à ce chiffre parce que cela fait 19 ans qu'il existe. Il est gratuit, bien sûr, mais vous allez l'entendre, nous avons parfois tendance à l'oublier.
Le 15, le 18, le 17, voilà.
Et le 112, ça vous parle?
Oui, je crois que c'est un nouveau numéro, mais en effet, non, j'ai toujours cela en tête.
Je pense que pour le feu, j'aurais plus appelé le 18 que le 112.
Le 112, j'avais pas la moindre idée que ça existait, en fait.
Ça regroupe toutes les urgences. C'est ce qu'on utilise avec les mobiles. Mais je sais, je l'ai mis dans mon téléphone en...
Le 17, le 15.
Le 112 également.
Vous connaissez le 112, monsieur?
Le 112, ouais.
Bah, c'est le international, non?
J'ai déjà composé le 17 ou le 18, mais pas le 112.
Oui, je connais bien le 112, parce que je travaille dans le ministère de la Santé. Quelle que soit l'urgence, il y a une régulation qui est mise en place et qui permet d'être réorienté en fonction de la gravité au bon endroit.
Des propos recueillis à Paris par Jean-Gabriel Bourgeois pour Europe 1. Plusieurs dizaines de personnes dans les rues de Madrid hier, la droite et l'extrême droite espagnole, opposées à la politique du chef du gouvernement Pedro Sanchez. 45 000 selon la police, plus de 200 000 selon le Parti populaire de droite. Et dans la foule, Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, candidat à la mairie de Barcelone. Il a justifié sa présence par la défense, je cite, du patriotisme et de l'amour de la Constitution en se désolidarisant de l'extrême droite. À Los Angeles, les Grammy Awards, les récompenses américaines de la musique, c'est en ce moment. Meilleure chanson de rap pour God's Plan du rappeur Drake. Donc trois récompenses déjà pour Lady Gaga, dont deux pour la chanson Shallow du film A Star Is Born. Mais la chanson de l'année, elle est pour This Is America de Childish Gambino, titre très critique des dérives de la société américaine. Et puis aux récompenses anglaises du cinéma, les BAFTA, le film Roma, production Netflix, a triomphé meilleur film et meilleur réalisateur pour le Mexicain Alfonso Cuarón.
Merci Jérôme. Avant de passer au journal des sports, il faut savoir si Céline est prête, évidemment. Testons-la. Céline, commençons. Olivier Tom.
Ils sont toujours en forme.
C'est bon, on peut y aller. À la une du JDS, les Lyonnais calent à Nice.
Les footballeurs restés sur 5 victoires, toutes compétitions confondues. Ils ont perdu hier soir à Nice 1-0, clôture de la 24e journée de Ligue 1. Le gardien niçois Walter Benitez, l'Argentin, il a notamment été très bon. 5 arrêts décisifs. Coup d'arrêt, oui, pour les Lyonnais, toujours 3e, mais qui voit l'avance des Lillois 2e augmenter 6 points désormais. Pas de panique, temporise toutefois l'entraîneur de l'OL, Bruno Genesio.
En gagnant ce soir, on aurait faire un écart conséquent avec nos poursuivants et surtout rester à proximité de Lille. Mais rien n'est terminé. Il y a encore 14 matchs à jouer et il va encore se passer beaucoup de choses.
Les Lyonnais donc 3e à 6 points des Lillois. Ces derniers qui ont consolidé leur 2e place hier à Guingamp. Victoire 2-0. Les autres résultats d'hier, Nîmes gagne 4-2 à Nantes. Rennes bat Saint-Etienne 3-0. Montpellier-Monaco 2 partout et Toulouse-Reims 1 partout.
Le rugby, Jérôme, et le 15 de France n'en finit plus de s'enliser.
44 à 8, la France battue de 36 points hier en Angleterre dans le tournoi des Six Nations. Plus large défaite depuis 1911. 6 essais à 1 et peu de motifs d'espoir, hein, si ce n'est reconnaître le monde d'écart entre les deux nations, autrefois toutes deux phares du rugby européen. L'ancien joueur Éric Blanc, consultant européen, amer.
C'est très inquiétant parce qu'on ne peut que être désolé de voir le niveau de jeu pratiqué. Certains leaders ont montré leurs limites d'âge, de fatigue, d'usure. Le rugby est tombé bien bas, ce qu'il est actuellement. On est sur un champ de ruines. Mais aujourd'hui, il est sûr que Brunel n'a pas la solution magique.
Des propos recueillis par Marie Guida. Inquiétude renforcée parce que le mondial au Japon, c'est dans 7 mois seulement et les Français retrouveront ces Anglais dès le premier tour de la compétition. Le tennis et tout va mieux. En revanche, en équipe de France féminine, les Bleus se sont qualifiés hier pour les demi-finales de la Fed Cup en s'imposant ce week-end en Belgique 3-0. Boudry terminée. Caroline Garcia, la numéro 1 française, a apporté 2 points. Elle était de retour après 2 ans d'absence. Les tricolores recevront les Roumaines les 20 et 21 avril pour une place en finale. Les Roumaines emmenées par l'ex numéro 1 mondial Simona Halep.
On reste dans le tennis, Jérôme, avec le chiffre du jour.
17, c'est la France qui gagne. 17e titre en carrière hier pour Joe Wilfried Tsonga. Il a gagné le tournoi de Montpellier en battant en finale un autre Français, Pierre Hugerbert. Tsonga, deuxième Français le plus titré de l'histoire, hein, derrière Noah, 23 titres.
C'est pas mal.
Oui,
hein.
Ah ben, vous le saviez
c'est
pas,
pas
ça.
Mal. Mais vous aussi, vous avez gagné un tournoi ici, les Moulineaux, ce week-end, non? On n'en parle pas, c'est bizarre.
Oui, mais pourtant, contrairement c'est un gros tournoi aux rumeurs que vous colportez, j'ai été habillé.
Ah, vous étiez habillé. Beaucoup moins intéressant.
Il y a tout le monde qui fait du sport nudiste, je précise.
Merci,
ça poil pas.
Ça peut être hyper facile.
Oui, mais redis le plus fort, ça. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix, élève, modèle, véritable surdoué, ayant réponse à tout, comme lorsqu'en CM2, sa maîtresse demandait « Les enfants, qui a écrit l'Odyssée ?» et que Gégé levait une main triomphale.
Moi, madame, les chevaliers du Zodiac.
C'est très fort à l'école, Gégé.
Europe 1.
Il est 5h08, Mathieu Noël.
Debout les copains continue avec un point météo suivi du pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis, je vous le martèle, chaque matin vers 5h10, si vous n'aimez plus votre métier, changez-en. Nos invités d'En Fallait Oser, eux, l'ont fait. Ce matin, rencontre avec Stéphanie, passée de la communication médicale à la pâtisserie sans gluten. Oui, Céline ?
Ça fait longtemps que t'as pas mis la chanson « Changer de vie ouais. ». Elle me manque.
Mais vos désirs sont des ordres. Changer de vie. Si on peut faire plaisir.
Changer d'amour, changer d'ami.
Il est 5h09, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avec mes complices Céline Dacosta et Varoc. Céline, on passe justement à un point sur la météo. Les éclaircies reviennent, me dites-vous.
Oui, voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Alors pas partout, hein, mais pour le nord, le nord-ouest, oui. Et puis en descendant vers l'Aquitaine, le ciel seront bien présentes cet après-midi. Ce matin, c'est encore un petit peu couvert. Du sud-ouest au nord-est, en revanche, le ciel va rester couvert, pluvieux, même avec encore un petit peu de vent dans le sud-est. Soleil près de la Méditerranée et pour la Corse. Les températures fraîches ce matin baissent cet après-midi. Elles commencent à baisser, surtout dans l'Est où on repasse sous la barre des 10 degrés.
Merci Céline et Varoc.
C'est l'anniversaire de David Abicard, notre monsieur revue de presse que vous retrouvez tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Et bien vous, quel journal, quel magazine lisez-vous? Comment vous informez-vous? Beaucoup sont passés déjà au kiosque numérique, vous savez, plus trop de presse papier. Ronan nous dit « J'ai toujours un œil sur la PQR de mon enfance, en l'occurrence Ouest France, plus le Télégramme, grâce au numérique justement parce qu'il nous écrit de Guadeloupe et d'ailleurs il nous souhaite une bonne nuit parce qu'il est allé se coucher. Carole, elle ne lit plus la presse. Occasionnellement, le progrès, elle écoute Europe 1 et regarde CNews, quelques émissions politiques. Et parfois, je fais des breaks parce que trop d'infos tue l'info. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Bien entendu.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, vous informez, vous amusez et pourquoi pas, chaque matin à 5h10, vous inspirez. Car on a tous rêvé un jour de changer de vie, mais eux l'ont fait. Chaque matin, dans Fallait Oser, zoom sur un homme ou une femme qui a su changer de trajectoire. Ce matin, Stéphanie Royanet, consultante dans la communication médicale pendant 19 ans, elle aimait beaucoup ce qu'elle faisait, mais lorsqu'elle se découvre une allergie au gluten, elle décide de se reconvertir et de créer sa propre marque de gâteau.
Fallait Oser.
Ce qui a tout changé en fait, c'est qu'il y a 6 ans, j'ai été diagnostiquée intolérante au gluten. Moi, j'étais privée de dessert en permanence et ça, c'était juste impensable pour la gourmande que j'étais. Et un jour, j'ai eu comme une colère de se dire je vais quand même pas, enfin, je refuse d'être condamnée toute ma vie à manger des produits qu'on aurait choisis pour moi. J'avais besoin de donner du sens à ce diagnostic et ce jour-là, du coup, j'ai décidé de créer une marque de pâtisserie fraîche sans gluten, mais vraiment gourmande avec des ingrédients sains. Et c'est comme ça qu'est née l'entreprise Natura Delis.
Il faudra 2 ans et demi à Stéphanie pour concrétiser son projet. Elle passe un CAP de pâtisserie, elle réfléchit à des recettes. Natura Delis est née en juin dernier et les produits sont commercialisés depuis seulement quelques semaines.
Ah oui, alors au menu à ce jour, des mini cakes aux noisettes, citron, orange ou chocolat. D'autres recettes
sont
à l'étude.
Mais
oui, on attend
de les
goûter. Stéphanie, elle remplace le gluten par la farine de riz, de pois chiches, de sarrasin ou de châtaigne. Mm-hmm. Elle n'utilise que des produits bio ou issus de l'agriculture raisonnée. Ce qui lui plaît, bien aider les autres et leur faire plaisir.
Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir donné une dimension positive au diagnostic, en fait. Et c'est ça, je pense, qui était important pour moi. Et là, j'ai réussi, donc je suis satisfaite. Après, je suis encore plus satisfaite quand les gens goûtent mes produits et qu'ils me disent qu'ils sont bons et que ça fait des années qu'ils n'ont pas mangé de pâtisserie et qu'aujourd'hui, ils renouent avec de la gourmandise. Il y a une émotion particulière et puis un sentiment de se dire que... Voilà, c'est des années de travail, mais quand ça fonctionne et qu'on a des retours positifs, bah c'est super.
La société de Stéphanie a reçu le label Entreprise Remarquable et ses produits sont distribués dans certains points de vente du département de la Loire.
Et on a très hâte de les
goûter.
Qu'elle
nous les envoie.
Voilà. Ah oui. Si vous aussi vous avez changé de métier et que vous souhaitez nous faire partager votre expérience, c'est tout simple. Vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag.
Je mangerais bien un mini cake sans gluten.
Ah, moi aussi, au chocolat.
Oui, enfin, même avec gluten.
C'est trop.
Envoyez tout.
Il est 5h13, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui fait le grand écart entre le journalisme le plus sérieux et l'humour le plus leste. Alors on le sait, Laurent Cabrol nous le dit souvent, un grand écart c'est toujours périlleux.
Des températures ce matin font le grand écart, c'est un écart à vous faire péter les c***. Voilà.
Mais on a décidé de prendre le risque, Lolo, à suivre. Devenez le roi de la machine à café, celui vers lequel tous vos collègues se tournent pour savoir quel film aller voir, quelle pièce réserver, quelle appli télécharger, écouter lundi les bons tuyaux. Tous les conseils de nos experts culture et high-tech. Alors ce matin, une pièce de théâtre exceptionnelle et toutes les applis utiles pour vos vacances au ski. Et puis prenez soin de vous, ou plutôt comme vous avez tendance à faire n'importe quoi en vous gavant de comprimés de vitamines inutiles, écoutez le docteur Ichou. Ce matin dans son point santé, le bon docteur nous parle des vertus du miel.
Il est 5h16. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
À Lyon, les enquêteurs privilégient la piste criminelle après l'explosion suivie d'un incendie samedi soir dans le 8e arrondissement. Une femme et sa fillette sont décédées. C'était, semble-t-il, la boulangerie au rez-de-chaussée de l'immeuble qui était visée. L'établissement avait déjà fait l'objet de dégradations et son propriétaire menacé par le passé. Enquête ouverte suite à la main arrachée d'un manifestant gilet jaune samedi à Paris. L'homme touché par une grenade de désencerclement a été opéré hier matin. Enfin, les gérants d'un restaurant Bagelstein ont déposé plainte hier. Les vitrines d'au moins deux de leurs magasins parisiens ont été taguées en jaune ces derniers jours de l'inscription Juden, juif en allemand. Le ministre de l'Intérieur dénonce un tag antisémite, une ignominie. Le parquet de Paris a ouvert une enquête.
Europe 1.
Voici pour les titres de ce 11 février 2019, ce qui ne nous dit en rien sur quels chevaux miser aujourd'hui à Vincennes. Or, Céline, comment sont les chevaux ?
Ils sont toujours en forme.
Mais comme Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi à Vincennes et mon pari gagnant sera le 105 Caresse, la bien nommée, car il s'agit d'une chic jument irréprochable sur laquelle on peut toujours compter. D'origine suédoise, elle fait preuve d'une louable régularité depuis son arrivée en France, sans toutefois parvenir à vaincre sur l'hippodrome de Vincennes. Une lacune qui pourrait bien être comblée dès cet après-midi, car elle va évoluer sur un parcours de vitesse sur laquelle elle excelle et face à une opposition largement à sa portée. Alors notez bien, pour Vincennes, réunion 1, dans la première course, le numéro 5, Caresse.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h17.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et c'est le moment convivial que vous attendez chaque matin, surtout le lundi, car le lundi, vous savez que je vais évoquer les événements du week-end dans la colloque DLC. Un week-end dont, pour tout vous dire, je ne me souviens pas très bien. Quelques flashs tout au plus, une soirée samedi soir dans la colloque. Eva, Céline et Jérôme qui, conformément aux nouvelles recommandations musicales d'Europe 1, organisent un karaoké dédié aux musiques tendances d'aujourd'hui.
Et Serge,
coup de foudre, mais je voulais pas.
Après, ma foi, c'est le grand flou. Je me souviens qu'il n'y avait pas d'eau minérale, ça je m'en souviens. Quelques bribes me reviennent, des phrases lancées à la cantonade. Est-ce que je vais pouvoir décapoter ? Eva Rock plaquant contre un mur avec autorité un jeune Uruguayen, tentant de le convaincre de la suivre dans sa chambre.
Eh ben, ça fait jamais de mal.
Argument qui a fonctionné, puisque 4 minutes plus tard, je me souviens de voir l'Uruguayen et Eva ressortir de cette chambre. Eva a l'air un brin déçu.
Déjà ? Ah oui, d'accord.
Un week-end comme les autres dans la coloc. Alors, on prend un Alka-Seltzer et on passe au passing. Notre revue de presse en mode zapping, ça va nous faire du bien. Un peu de sérieux ce matin, à la une de Faux Quotidien, il est question de sécurité routière. Le Parisien a choisi de mettre en avant le témoignage de Pauline avec cette phrase choc. Un chauffard de 92 ans a brisé ma vie. Pauline qui se bat pour que les seniors passent un examen médical s'ils veulent continuer à conduire. Sécurité routière encore à la une de La Croix. 80 km/h, les solutions des élus. Et puis, difficile d'échapper à la défaite, on en parlait dans le journal des sports, de l'équipe de France de rugby contre l'Angleterre. Un autre monde, titre l'équipe, pendant que Sud-Ouest, sur le même sujet, n'hésite pas à parler, à barrer sa une, pardon, du mot humilié. Un peu fort, mais c'est pas faux.
C'est un peu ça quand même, hein.
Mais insatiable chasseur de scoop, qu'avez-vous déniché dans la presse, Eva ?
Eh bien, je vous parle encore de médias ce matin grâce aux Échos qui consacrent une page aux plateformes de vidéos à la demande avec ce titre à Hollywood, Disney enclenche la riposte anti-Netflix. À la fin de l'année, Disney va lancer sa propre plateforme aux États-Unis avec des exclusivités, évidemment, à commencer par le prochain Captain Marvel qui est attendu au cinéma au mois de mars. Eh bien, le film ne sera pas disponible sur Netflix ou sur un autre site.
Pourquoi ?
Ce sera le premier film que nous retirons de nos contrats habituels de rendement, nous devons renoncer à certains revenus, a expliqué la directrice financière de Disney. Ce sera pour la plateforme Disney à la fin de l'année. Alors, c'est un manque à gagner pour Disney de 150 millions de dollars, qui espère pourtant convaincre donc le public avec ce qu'on va appeler désormais Disney+, qui sera alimenté par les franchises Disney, évidemment, mais aussi par des contenus Pixar, Star Wars ou encore National Geographic. Alors, en espérant que ça suffise quand même pour concurrencer sérieusement Netflix, qui star quand même à ce jour de 139 millions d'abonnés payants. L'objectif en fait de Disney et des autres plateformes, c'est d'assécher le catalogue Netflix qui, de son côté, pardon, poursuit sa politique d'exclusivité. Pas question de rester sans réponse, bien évidemment, face à l'offensive de Disney. Le groupe pourrait ainsi débourser, écoutez bien, 15 milliards de dollars pour financer de nouveaux contenus contre 8 milliards l'an passé. Le patron de Netflix qui dit d'ailleurs... On n'est pas focalisé sur Disney, nous rivalisons et perdons avec Fortnite, plus qu'avec HBO. Comprenez, on est plus inquiet par le jeu vidéo qui monopolise des joueurs pendant des heures, soit du temps non passé sur Netflix que sur les autres plateformes. Oh là. Netflix qui ne cesse d'étoffer ses contenus, la plateforme a annoncé par exemple avoir acquis une nouvelle série documentaire sur Alexandria Ocasio-Cortez. Vous savez, c'est la plus jeune élue du Congrès aux États-Unis, elle a 29 ans. C'est la nouvelle figure de proue de la vague démocrate. 10 millions de dollars ont été dépensés pour acquérir cette série. Preuve que Netflix a compris qu'il ne pouvait pas se contenter de séries et autres films. Le documentaire devient aussi un enjeu entre plateformes. D'ailleurs, lors du dernier festival Sundance, les prix d'acquisition n'ont jamais été aussi élevés, à la fois par Netflix et par Amazon Prime Video, évidemment, c'est-à-dire dans les échos.
Intéressant, Eva. Ouais. Intéressant. Cette nouvelle plateforme Disney qui arrive.
Ouais, je sais
c'est fin d'année, c'est
fin d'année aux États-Unis. Ah, donc je pense qu'il faudra attendre encore.
Ah bon, ça
ne
sera pas mondial ?
Pour l'instant, ils annoncent aux États-Unis.
Bon, enfin, Disney, bougez-vous.
Mais oui.
Je ne sais pas pourquoi
vous
je dis ça.
Le prix, non, de l'abonnement ? Bah non, c'est
non
pas.
Pas encore.
Ah ben bah non, on ne sait pas. On verra ça, Céline. On aura le temps de s'abonner. Céline Lacosta, qu'avez-vous ? Qu'avez-vous ? Oui, vous avez l'air impatiente sur Disney.
Moi, c'est dans les pages santé du Figaro que j'ai trouvé cet article qui nous parle de la grossophobie, qui est malheureusement d'actualité. Mais là, on la retrouve dans un domaine où on ne devrait trouver que de la bienveillance. Dans le domaine des soignants. En effet, certains professionnels de santé se montrent particulièrement blessants à l'égard de leurs patients, vous allez l'entendre, comme ce radiologue qui dit à une patiente « Vous avez les deux genoux abîmés par l'arthrose, mais comme de toute façon, on ne fait pas de prothèse pour les mammouths, on ne peut rien pour vous. » Ah non, mais c'est d'une violence. Ou alors ce cancérologue qui a du mal à doser la chimiothérapie orale d'une patiente qui a un cancer du sein. Elle a subi une opération visant à réduire la tête de son estomac et lui dit « C'est de votre faute. Si vous n'étiez pas obèse, vous n'auriez pas ce bypass et vous n'auriez sans doute pas eu ce cancer. » C'est d'une violence. Et ça illustre une réalité pointée par des études scientifiques qui disent que les médecins voient leurs patients obèses comme moins autodisciplinés, moins dociles et plus agaçants que les non-obèses. Pire, leur patience et leur désir d'aider les patients diminuent à mesure que l'indice de masse corporelle augmente. En fait, l'obèse a pour eux l'image du gourmand qui se place en dehors de tout circuit, en tout cas du circuit des adultes, sur un mode régressif. Et pour beaucoup, il suffit d'arrêter de manger pour que le problème soit réglé. Mais ce n'est pas si simple. C'est une vraie pathologie avec une composante environnementale importante, mais aussi une grande inégalité biologique. Ça nous paraît évident. Je ne vois pas pourquoi paraît pas évident à eux qui sont dans le domaine médical. Alors, ils ne sont pas tous dans le cas, évidemment. Mais partant de ce constat et pour faire changer l'attitude des soignants vis-à-vis de leurs patients obèses, les centres de simulation de santé de Rouen et de Lille proposent aux soignants de mettre une combinaison qui augmente leur corpulence. Alors en quelques minutes, ils gagnent une trentaine de kilos et un mètre de tour de taille. Et ils découvrent alors, le temps d'une après-midi, toutes les difficultés.
Sinon, vous venez chez moi avec tous les gâteaux qu'on a fait ce week-end. Je peux dire que vous n'avez pas besoin de la combinaison, vous prenez les 30 kilos, vous les avez assez rapidement.
Vous êtes bête. Et donc, ils se rendent compte en une après-midi des difficultés vécues au quotidien par une personne obèse. Ça va de s'habiller, c'est pour ça que beaucoup préfèrent les joggings, c'est plus simple à enfiler, ne pas pouvoir lasser ses chaussures, être essoufflé dès qu'on marche, éviter les sièges avec des accoudoirs, mais surtout, ils découvrent le regard des autres et comprennent réellement ce qu'ils vivent quand ces regards pas forcément bienveillants se braquent sur eux. Alors espérons que cette expérience fasse évoluer les mentalités, car s'il y a bien un domaine où tout le monde mérite de la bienveillance, c'est bien dans le domaine médical. C'est un papier à lire dans les pages santé du Figaro qui m'a beaucoup étonné, moi, personnellement.
Nous aussi, merci beaucoup Céline. Jérôme Lacroix.
Oui, petit sondage, soyons honnêtes autour de cette table, on est entre nous.
Oula. Est-ce que c'est sexuel ?
Non, pas du tout. Ne sommes-nous pas nombreux
Ça va, alors je serai honnête.
À tiquer lorsque nous voyons un produit alimentaire dans notre frigidaire dont la date limite de consommation est dépassée.
On se pose tous la question.
Peut-être qu'on n'est pas tous à jeter. Vous, par exemple, vous jetez quand la date limite de consommation...
Ça dépend quel type de produit. Dès que c'est sensible, je jette. Et puis si c'est un truc moins sensible...
Pas les yaourts, par exemple.
On estime que ce respect, parfois peut-être un peu trop scrupuleux, vous allez l'entendre, des dates de péremption sur certains aliments, est à l'origine de 20% du gaspillage alimentaire. Un quart des consommateurs affirment ne jamais consommer des aliments dont la date est dépassée. Et un autre quart même... les jettent un jour avant la date, selon
le
c'est idiot. C'est ainsi que deux associations qui luttent contre le gaspillage alimentaire font ce matin une préconisation. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui nous en parle. Allonger d'une journée la durée de vie de certains produits, c'est-à-dire le manger quand c'est dépassé de seulement un jour. Alors, il ne s'agit pas de se rendre malade. Hein. On parle ici du café, des gâteaux secs, c'est ce que vous disiez, ça dépend du produit.
Même les yaourts, vous les mangez un jour
alors,
après.
Alors voilà, on ne parle pas en tout cas de viande crue, fromage au lait cru, rillettes.
Le fromage, exemple, voilà. Plus c'est vieux, plus c'est bon.
Ah oui,
il faut vraiment qu'il soit bouffé de moisissure pour que je ne mange pas un fromage.
Fromage au lait cru.
Mais quoi, c'est justement, moi je mange que des fromages au lait cru, je vous donne sa couleur.
Vas-y, des fromages.
Il n'y aura pas de pasteurisé chez moi, mon GG.
Bon, vous connaissez la préconisation qu'on voit partout sur tous nos aliments, à consommer de préférence avant le, à consommer jusque. Et bien, les deux associations qui sont l'application Too Good To Go ainsi que France Nature Environnement proposent de rajouter et aussi après, à consommer jusqu'au 11 février.
Oui, c'est une double date
après,
d'opération.
Voilà. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que la mention à consommer de préférence avant le, c'est ce qu'on appelle une date de durabilité minimale. Ça veut seulement dire que passé la date...
Ça n'a plus le même goût. On ne peut pas garantir le goût.
Le produit peut perdre sa belle couleur, avoir un drôle de goût, mais certainement pas présenter un risque pour la santé. Et, le saviez-vous, cette mention à consommer de préférence avant le est différente de à consommer jusqu'au... Ça, c'est un indicateur sanitaire. Et passé la date, le produit peut présenter des risques pour la santé. Attention, ce ne sont pas les mêmes étiquetages. Alors, selon le journal Le Parisien, Carrefour, Monoprix, Biocoop, notamment, se sont déjà engagés à suivre cette voie préconisée par les associations, inspirées par exemple par les Norvégiens. Alors là-bas, sur certains produits, il est écrit « à consommer de préférence avant telle date ». Mais pas mauvais après
les Norvégiens vont peut-être un peu trop loin parce que moi je me souviens justement c'est ça qui a changé mon rapport à la date limite de consommation c'est qu'à Fort Boyard dans l'épreuve de on mange n'importe quoi j'avais mangé je crois des harengs périmés depuis 20 ans enfin ils étaient médicalement les médecins disaient que médicalement on pouvait les manger mais par contre effectivement le goût c'est et l'odeur c'était
quelque
chose
d'assez
incroyable.
Est-ce que vous avez eu la clé ou pas?
J'ai eu la clé. J'ai eu la clé exactement.
C'est le mauvais Willy Robelli qui vous a fait ça.
Ah oui, je file un Willy.
Alors voilà, manger un produit le lendemain de sa date limite de consommation permettrait de réduire de 170 000 kilos par an le gaspillage, selon certaines associations.
Ouais. Alors venez à la maison, parce que j'ai deux, trois trucs qui sont limites dans le frigo. Ça va falloir débarrasser. Merci beaucoup Jérôme, merci à tous les amis, le pressing referme ses portes. Et Jérôme, si vous deviez changer une chose dans cette colocation, si vous aviez une requête...
Des vestiaires mixtes.
On va voir.
Europe 1. Il est 5h27, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec la météo, le journal d'Hélène Zélani. Étourdissant réveil à l'écoute d'Europe 1.
Il est 5h28, Mathieu Noël.
Céline, on fait un point sur la météo de ce 11 février, un ciel encore nuageux.
Oui, avec un reste d'averse qu'on retrouve ce matin sur le nord-est. Un peu de neige sur les reliefs également, puis de la pluie sur les Pyrénées. Et déjà quelques éclaircies qui vont pointer le bout de leur nez sur les côtes atlantiques dans la matinée et près de la Méditerranée. Ciel en revanche agité pour la Corse avec du vent. Je disais quelques éclaircies déjà car elles reviennent cet après-midi par le nord-ouest et tout le monde en profitera des Hauts-de-France à la Gironde. Ça restera plus mitigé avec encore des averses et un ciel plus couvert du sud-ouest au nord-est. Soleil aussi sur le pourtour méditerranéen avec du vent. Amélioration également pour la Corse qui cet après-midi va retrouver son soleil.
Un mot des températures.
Qui sont fraîches ce matin, 2 degrés à Orléans, 3 à Lille, 4 à Paris, Nancy, Tours, 6 degrés à Jean, 10 à Perpignan, 11 à Nice et 15 à Bastia déjà en ce moment. Et cet après-midi, les maximales baissent et surtout dans le nord-est et le centre-est puisque la moyenne sera là de 4 à 8 degrés. Prévoyez 8 à 10 degrés dans le nord et dans l'ouest. 10 à 12 degrés dans le sud-ouest et jusqu'à 16 degrés encore pour le sud-est.
Merci Céline.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe sans vous miner, grâce notamment à l'entrain communicatif de Céline Dacosta qui est vraiment quelqu'un de solaire.
Non, même pas, non, moi je suis juste à stigmate, mais la correction est très très légère. Hein.
Bon, bref, à suivre, lundi les bons tuyaux, tous nos conseils culture et nouvelles technologies avec aujourd'hui une pièce de théâtre avec Daniel Auteuil qui vaut le voyage à Paris et toutes les applis utiles pour vous faciliter vos vacances au ski. Et puis, alors qu'on est au cœur de l'hiver et que chaque matin dans la rue, dans les transports, au bureau, le rhume risque de nous tomber dessus, dans votre point santé, le docteur Ichou vous parle ce matin d'un remède simple, d'un remède naturel et qui marche vraiment.
Le sexe.
Presque, le miel. Eva. Et si vous mélangez les deux, on peut parler de véritable combo.
Bienvenue sur Europe 1, il est 5h30.
5h-7h, Mathieu Noël.
Les infos de ce 11 février 2019. Bonjour Hélène Zeleny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
La piste criminelle privilégiée après l'explosion suivie d'un incendie dans un immeuble lyonnais. 2 morts, 4 blessés, la boulangerie du rez-de-chaussée avait déjà été visée. Après la 13e journée de manifestation des Gilets jaunes, les élus des grandes villes réclament des indemnisations pour les habitants et les commerçants. Les pertes atteignent des millions d'euros. Et puis journée de mobilisation des auto-écoles qui craignent la concurrence des auto-écoles en ligne. Un blocage du périphérique parisien est prévu dans une heure.
Europe 1.
La piste criminelle ne semble donc plus faire de doute à Lyon. Samedi soir, une explosion suivie d'un incendie a tué 2 personnes, une femme enceinte de 8 mois et sa fillette de 4 ans. 4 autres ont été légèrement blessées. L'explosion s'est produite au rez-de-chaussée dans une boulangerie déjà visée à plusieurs reprises. À Lyon, Jean-Luc Boujon.
Le parquet de Lyon a très vite évoqué la piste de l'incendie criminel car des substances explosives ou incendiaires ont été retrouvées sur place. Et puis il y a aussi ce témoin qui aurait raconté avoir croisé un homme en train de s'enfuir juste après l'explosion, raconte Saber, un voisin.
Elle l'a attrapé, la personne apparemment elle s'est débattue.
Il a pu décrire la personne qui est sortie de l'arrière ?
Cagoulé, petite taille, pas si grand, en feu sur un de ses bras.
Un témoin qui a été entendu hier par la PJ de Lyon à qui l'enquête a été confiée. Et puis il y a surtout eu ces dernières semaines différentes tentatives pour endommager cette boulangerie qui n'avait été reprise par un nouveau propriétaire que depuis quelques mois. Rémi qui habite dans cette rue se souvient.
3-4 jours avant cette situation-là, 2 voitures qui avaient pris feu devant cette boulangerie. 2 mois en arrière, il avait eu aussi un camion qui avait été rentré dans la boulangerie et qui avait été foutre le feu et tout ça. Donc pour moi, je pense que c'est criminel.
Une série d'incidents graves qui avait décidé la famille victime du feu samedi soir à programmer son départ. Le mari, sa femme enceinte et leur enfant devaient déménager la semaine prochaine. Lyon. Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et précision importante, la famille du boulanger n'habitait pas cet immeuble.
Attention si vous devez prendre le périphérique parisien ce matin.
Oui, les auto-écoles se mobilisent pour défendre la qualité de l'enseignement du permis au service de la sécurité routière. Une opération escargot est donc prévue sur le périph' parisien à partir de 6h30 tout à l'heure avant un rassemblement Place d'Italie. Des manifestations prévues également dans plusieurs villes comme Bordeaux, Marseille ou Nice.
Europe 1, il est 5h32.
51 000 gilets jaunes samedi dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur.
Oui, une 13e journée de mobilisation et encore les mêmes images de violence et de dégradation à Paris comme en région. Commerçants et habitants s'estiment pris en otage par les casseurs avec des pertes de plusieurs millions d'euros. Les élus des grandes villes demandent donc une réunion d'urgence au gouvernement pour réclamer des indemnisations. Parmi eux, le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriot, qui a fait ses comptes.
En fin d'année, nous avons déploré environ 1 million d'euros de dégâts sur l'espace public qui devront être financés par la ville. 1 million d'euros dans un certain nombre de commerces qui ont été fortement dégradés, voire même pillés. Ça fait 13 samedis que nos centres-villes, nos commerces souffrent énormément de ces manifestations qui, sans être autorisées, finalement ne sont pas interdites. Les centres-villes sont désertés par les habitants qui n'ont pas envie de se retrouver dans les mêlées aux gaz lacrymogènes. Et que tout ça est en train de mettre en danger l'économie tout simplement de nos villes. Cette résolution du problème arrive effectivement par des décisions financières. Et ce que nous souhaitons, c'est que le gouvernement en ait conscience. Et nous attendons maintenant une réponse et une réaction très rapide.
Voilà le maire de Saint-Étienne, joint pour Europe 1 par Marguerite Lefebvre. Lors de la manifestation parisienne, un homme a eu la main arrachée. Selon le ministre de l'Intérieur, il a voulu prendre une grenade de désencerclement lancée par les forces de l'ordre. Elle a explosé. Christophe Castaner qui annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire. Enquête également après l'inscription découverte sur un restaurant Bagelstein dans le centre de Paris. Le mot Juden, juif en allemand, à l'image des inscriptions pour désigner les magasins tenus par des juifs sous l'Allemagne nazie.
En Espagne, Hélène, la droite et l'extrême droite dans la rue au cri de Sanchez démission.
Oui, rassemblement à Madrid contre Pedro Sanchez, le chef du gouvernement socialiste accusé d'avoir trahi l'Espagne en dialoguant avec les indépendantistes catalans. L'ex-premier ministre Manuel Valls, candidat à la mairie de Barcelone, participait à ce rassemblement. À 81 ans, le président algérien Bouteflika brigue un 5e mandat lors de la présidentielle du 18 avril prochain. Il est pourtant très affaibli par des problèmes de santé et n'est pas apparu en public depuis novembre dernier. Et puis Donald Trump, soupçonné de se la couler douce, il assure qu'au contraire, il travaille dur et même plus que les autres présidents, selon des documents.
Parce qu'il arrive à travailler quand il est sur le green de golf. Il travaille dans sa tête, en fait. Dans sa tête, ça cogite.
Selon des documents publiés ce week-end, les 5 premières heures de sa journée sont placées sous le signe de l'executive time. Personne ne sait ce que ça veut dire. En tout cas, il est en train de rechercher d'où vient la fuite.
C'était le journal d'Hélène Zeleny, une journaliste exceptionnelle, mais aussi plus globalement une femme exceptionnelle. Une femme qui, comme on dit, sait parler aux hommes. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir là tout de suite, Hélène ?
Fais-toi plaisir, ton bonheur est le nôtre.
Eh bien, si je devais écouter mon plaisir seul, je ne ferais certainement pas ce choix-là, mais vu que je suis avant tout un professionnel et qu'il y a des auditeurs, je crois qu'on va passer au journal des sports de Jérôme Lacroix. À la une, Jérôme, un pari gagnant.
Le pari du capitaine des filles de l'équipe de France de tennis, Julien Benneteau, a réussi à réunir ce week-end en Belgique toutes les meilleures joueuses françaises pour le quart de finale de Fed Cup, y compris Caroline Garcia, la numéro 1. Absente depuis 2 ans, elle privilégiait sa carrière personnelle. Les Françaises ont gagné 3-0 en Belgique. Elles sont en demi-finale et Caroline Garcia a apporté 2 points sur 3, le dernier décisif hier, en 2 manches face à la numéro 1 belge, Elise Mertens. Rendez-vous maintenant les 20 et 21 avril à domicile face aux Roumaines pour une place en finale. Et Caroline Garcia n'a pas confirmé sa présence.
J'ai pas vraiment envie de me poser des questions sur un futur qui est plutôt éloigné pour l'instant. Les choses étaient pour l'instant pour cette rencontre-là. On va pas se projeter dans une rencontre qui est dans des mois et que pour l'instant, bah voilà, on essaye de profiter de cette victoire qu'on s'attendait peut-être pas spécialement à gagner 3-0.
Des propos recueillis par Corinne Boulou et côté garçon, saluant le 17e titre de la carrière de Joe Wilfried Tsonga, victorieux hier du tournoi de Montpellier en battant Pierre-Hugues Herbert en finale.
Le foot, Jérôme, et les Lillois creusent l'écart avec les Lyonnais.
C'est la bataille pour la deuxième place de la Ligue 1. Les nordistes ont gagné hier 2-0 à Guingamp. Un peu plus tard, les Rodaniens perdaient 1-0 à Nice. Conséquence, après 24 journées, 6 points d'avance ce matin pour les Lillois. Les Lyonnais restent 3e et les Niçois grimpent 7e.
Les Bleus du rugby ont quelques jours pour tenter de panser les plaies.
Le giron familial jusqu'à vendredi, date du retour au centre de Marcoussis dans l'Essonne. Ils prépareront l'Écosse, 3e rendez-vous des 6 nations dans 2 semaines. Des Français KO après la déroute historique hier en Angleterre. 44-8, 6 essais à 1, 36 points d'écart du jamais vu depuis 1911. Le sélectionneur Jacques Brunel de reconnaître le fossé abyssal de niveau. Et quand on lui rappelle que ces Anglais, eh bien, les Français les retrouveront au premier tour du mondial japonais dans 7 mois. Ils préfèrent ne pas y penser.
Nous, ce qui nous importe, ce n'est pas l'Angleterre dans 6 mois, c'est l'Écosse dans 15 jours. Même si c'est dur, même si le score est dur, il va falloir être capable de rebondir et d'évacuer cette défaite pour repartir de plus belle et tâcher de gagner à Paris.
Des propos recueillis par Simon Rubin.
On termine, Jérôme, avec la personnalité du jour.
J'en choisis 2 ce matin et c'est un pronostic.
Oh, j'adore vos pronostics.
Les skieurs tricolores.
Mettez la musique du pipeau.
Les skieurs tricolores, Alexis Peintureau et Victor Mufajandé, j'espère ne pas leur porter malheur. Tous deux potentiels médaillables aujourd'hui en Suède sur l'épreuve du combiné aux mondiaux de ski alpin. Donc une descente plus un slalom,
oui,
c'est ça le combiné.
Ça.
Les deux hommes avaient été médaillés d'argent et de bronze au dernier JO sud-coréen.
Non, mais vous n'avez jamais.
On est tout cœur avec eux.
Heureusement qu'ils écoutent Virgin Radio plutôt.
Et la dernière fois sur Johan Claret, j'avais fait et il avait eu l'argent.
Vous aviez bon ?
Ben oui, j'avais dit il est médaillable et il a eu la médaille d'argent.
Ah bon, vous n'êtes pas vraiment le chat noir alors.
Mais non,
pas
c'est
autant que prévu.
C'est
que
faut que le porter.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Une réaction, Céline ?
Moi, je m'attendais à un truc beaucoup plus extravagant en fait.
Mais moi aussi, mais depuis qu'il met des pantalons sur ses slips fantasy, c'est plus la même chose, Jérôme Lacroix.
Europe 1.
Il est 5h38, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire. À suivre. Lundi, les bons tuyaux, bons plans théâtre, nouvelles technologies et plus si affinité. Ce matin, on parlera d'un classique de Molière, Le Malade Imaginaire, astucieusement revisité et porté par Daniel Auteuil. On vous donnera aussi les meilleures applis pour optimiser votre semaine au ski. Juste après, votre point santé. Et ce matin, alors que les laboratoires pharmaceutiques jouent sur notre peur du rhume, sur de l'état grippal et de la dépression saisonnière pour nous vendre toutes sortes de gélules inutiles, à grand renfort de publicité.
Découvrez le secret de la vitalité d'Annie Dupéret.
Votre chat,
le docteur Marcel Ichoux. On vous rappellera qu'il existe un remède naturel et très efficace, le miel, pas vrai docteur ?
Je vais vous parler du miel, ce remède universel.
Oui. Très bien. On a Marcel.
Miel, ce remède universel.
Il est 5h41, Mathieu Noël.
Oui Céline, et on fait tout de suite un point sur le temps.
Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine. Rénoval vous présente la météo.
Avec Céline Dacosta. Ciel couvert ce matin, Céline.
Oui, encore des averses même, hein, de la neige sur les reliefs, puis encore un petit peu de vent dans le sud-est. Les éclaircies reviendront cet après-midi sur le nord et l'ouest du pays. Le ciel sera encore mitigé pour les autres, sauf sur le pourtour méditerranéen et la Corse où il va briller le soleil. Et puis, côté température, c'est un peu frais ce matin. Ça baisse aussi cet après-midi, surtout sur l'est du pays.
Merci, Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
C'est l'heure de notre page santé avec le docteur Marcel Ichoux. Bonjour Marcel.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui, on parle d'un ingrédient qu'on présente souvent comme miraculeux pour lutter contre les infections de l'hiver comme la toux, les maux de gorge. Il s'agit du miel. Alors Marcel Ichoux, les bienfaits du miel sont-ils aussi nombreux qu'on le prétend ?
Ah bah ça, on le prétend, vous avez souvent entendu cette phrase magique, c'est bon pour la santé.
Oui.
Alors de nombreuses allégations concernent le miel, mais aussi des tas de produits. Alors chacun y va du produit qu'il prend le matin, les amandes que je pense que Eva consomme.
Non, j'ai arrêté.
Ah, elle a arrêté. Le poisson cru, le café, l'huile de lin, le curcuma, l'ail, le citron, le vinaigre. Alors concernant le miel, les vertus sont multiples. Elles ne sont pas prétendues, elles existent, mais avec une intensité, on va dire, relativement modérée. Alors, on prétend que le miel est un antioxydant, un régulateur du sommeil, qui renforce l'immunité et qu'il diminue le mauvais cholestérol. Donc, j'en passe, c'est des meilleurs.
Mais tout ceci n'est pas vrai.
C'est pas que ça n'est pas vrai, c'est une question d'équilibre.
Pourquoi vous foutez de ma gueule, Eva?
Je me fous pas de vous.
C'est l'acteur qui dit.
Vous voulez dire que j'ai mal joué la relance, c'est
pas
ça?
Non, au contraire, vous étiez très très puissant. Ouais. C'était formidable.
Je note pour ton prochain papier. Tiens.
Il y a donc plusieurs éléments de réflexion.
Alors.
La première chose, c'est qu'il ne faut pas confondre une propriété biochimique avec un effet thérapeutique. C'est vrai, des plantes comme des aliments, on peut les utiliser dans l'alimentation, mais il y a loin de la coupe aux lèvres entre une petite propriété et un élément thérapeutique, c'est très loin. La deuxième chose, c'est que l'état de santé résulte de plusieurs paramètres dont l'alimentation est un élément important, dès lors qu'elle est diversifiée, riche en légumes, pas trop sucrée, pas trop gras. Je vous répète sans arrêt la même chose. Le miel est donc un aliment très intéressant, mais il ne peut pas en faire la panacée, car il faudrait en manger des quantités importantes. Du coup, vous risquez le diabète.
Oui.
Et
ça.
Vous allez alors avoir une diminution de l'immunité, renforcement des maladies cardiovasculaires, etc. Donc en conclusion, ayez une alimentation diversifiée. Mangez du miel si ça vous fait plaisir, mais n'en consommez pas, pardon, tous les jours.
Ça marche. Donc on passe de c'est bon pour la santé à ça peut pas faire de mal.
Voilà.
C'est ce que je conclue de cette chronique. Merci Marcel Ichoux.
Europe 1. Il est 5h44, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, deux heures d'infos copieusement arrosées d'allégresse en compagnie de la fine fleur du journalisme radio. En effet, l'équipe de Lundi les bons tuyaux arrive pour vous faire part de ses coups de cœur culturels. Une équipe qui sera bientôt privée d'un de ses membres phares, notre spécialiste innovation, le jeune Grégoire Martinez, qui nous quitte la semaine prochaine pour d'autres aventures. Vendredi, quand j'ai réalisé que son contrat se terminait si vite, j'ai été très ému.
Tu sais que par contre, c'est pas à la fin du mois que je pars, c'est vendredi prochain.
Ah déjà ?
Non, enfin.
On va faire une sacrée chouille.
Parfois, je me surprends moi-même par ma modernité. Allez, en attendant cette sacrée chouille, je vous propose qu'on écoute un peu de musique. Paradise, Offenbach sur Europe 1. Paradise, un titre d'Offenbach que l'expert musique d'Europe 1, Thierry Geffrotin, qui nous a rejoint, a pu écouter avec nous. Votre verdict, Thierry?
Mais voyez, c'est bien, mais ça monte de...
La fille du guignol. Tchakatakapoum, tchakatakapoum, voilà.
Voilà, voilà. Merci, Thierry, pour cette analyse.
Il est 5h47. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
À Lyon, les enquêteurs privilégient la piste criminelle après l'explosion suivie d'un incendie samedi soir dans le 8e arrondissement. Une femme et sa fillette sont décédées. C'est, semble-t-il, la boulangerie au rez-de-chaussée de l'immeuble qui était visée. L'établissement avait déjà fait l'objet de dégradations et son propriétaire menacé par le passé. Enquête ouverte suite à la main arrachée d'un manifestant gilet jaune samedi à Paris. L'homme touché par une grenade de désencerclement a été opéré hier matin. Enfin, plusieurs dizaines de personnes dans les rues de Madrid hier, principalement des membres de la droite et de l'extrême droite espagnole opposés à la politique du chef du gouvernement Pedro Sanchez, et dans la foule Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, candidat à la mairie de Barcelone, a justifié sa présence par la défense, je cite, du patriotisme et de l'amour de la Constitution, en se désolidarisant bien sûr de l'extrême droite.
Europe 1.
Voilà pour l'essentiel de l'actu de ce lundi 11 février, mais Eva, arrêtons-nous un instant car j'ai vu passer José Coves avec une cravache. Deux hypothèses, où il compte nous donner ses pronostics hippiques du jour.
Ou c'était pour un jeu sexuel.
Oh, à 5h47 du matin, je mise plutôt pour l'hypothèse des pronostics hippiques. Bonjour José Coves.
Oh, faites-moi mal, mes enfants, faites-moi mal. À Vincennes, 7 juments sont au départ de la première course, mes 5 favoris. D'abord, Caresse, le numéro 5, elle enchaîne les places d'honneur. Le chef d'orchestre Jean-Michel Bazir vient de nous mener à la baguette. Le 9, Sidgis de Guèze, on s'attend à une nouvelle envolée lyrique. Généreuse Civette Dupont, le numéro 3, elle va encore tout donner. Balina Dourville, le numéro 1, s'élancera derrière la voiture du starter, elle est incontournable. L'inconstante Evny Breyer, le 12, a un moral de vainqueur, profitons-en. On peut encore choisir la germanique Celestial Light, le 14, elle n'a rien d'une touriste. Et enfin la suédoise Merle Simon, le 15, pour une petite place, mais pas mieux. Voici donc mon ticket pour cette première course vers 13h47. D'abord le 5, le 9, le 3,
Là, c'est le 12 et l'on ajoute le 14 et le 15.
Si je vous entends bien, José, Celestial Light, le 14, ne vient pas à Paris pour visiter la Tour Eiffel.
Pas la Tour Eiffel, mais pour faire un tour d'honneur. Cette jument nous vient d'Allemagne. Elle a remporté une course sur deux pour un total de 27 victoires. Que des promenades de santé. Et puis Mathieu, vous savez comme moi que ce sont toujours les Allemands qui gagnent à la fin.
Oh, ça c'était avant ça, José. C'était avant nos bleus. Merci quand même, José.
Il est 5h49.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici lundi les bons tuyaux. Pour les écrans, Eva Rock. Pour les innovations high-tech, Grégoire Martinez. Et enfin pour le théâtre et l'humour, le maestro du rire, Thierry Magic Geffrotin.
C'est ce qu'on appelle être fesse caméra. Pas de quoi tomber sur le cul, mais quand même.
Thierry, laissons l'humour de côté un instant et parlons.
Vous sortez tout du contexte.
Et parlons théâtre. C'est vrai, c'est dégueulasse. Ouais. Un coup de théâtre, un coup de cœur et non pas un coup de théâtre. Ouais. Un coup de cœur théâtre ce matin, Thierry. Le Malade Imaginaire, la pièce de Molière, avec à l'affiche Daniel Auteuil et sa fille Aurore.
Oui, alors le Malade Imaginaire, c'est la dernière pièce de Molière. Il ne l'a jouée que 4 fois. Avant de mourir. C'est une comédie, hein. C'est une farce, mais comme toujours chez Molière, au-delà du rire, il y a une réflexion sur la condition humaine, réflexion sur la mort, évidemment, même si notre malade est fort bien portant, il est surtout amoureux de sa maladie, pourrait-on dire. On ne sait pas quelle maladie d'ailleurs, mais question ordonnance, lavement, saignée, hein, ça se pratiquait beaucoup à l'époque, argan est bien servi. Hein.
Et argan, ce malade imaginaire, c'est Daniel Auteuil alors du coup ?
C'est Daniel Auteuil et Aurore, sa fille, joue Toinette, la servante, souffre-douleur de ce malade qui se porte comme un charme. Molière aime offrir de beaux rôles aux serviteurs qui ont le bon sens pour eux. C'est le cas d'ailleurs pour Toinette. Hein.
Daniel et Aurore Auteuil ensemble sur scène, ça donne quoi ?
Ah, c'est très réussi, je dois le dire. Hein. Daniel Auteuil en bourgeois acariat, ça lui va bien. Hein. Aurore Auteuil en servante vive et futée. Ils se confrontent, s'affrontent souvent. C'est touchant hein, de voir un papa et sa fille sur la scène. Aurore qui attendait ce moment depuis 17 ans. Touchant aussi d'entendre Daniel et Aurore parler d'une même voix de Molière et de cette pièce.
C'est la fête de l'intelligence, du rire, c'est la fête du cœur, c'est la fête du respect dû au public, des acteurs entre eux, c'est la fête du théâtre.
Ouais. Ah bah oui, il a raison, c'est une grande fête de pouvoir être réunis ensemble. On a une super belle troupe, nous sommes 12 et on est très liés, donc c'est magnifique de pouvoir jouer dans ces conditions-là d'autant plus.
Allez-y, courez-y, le Malade Imaginaire de Molière au Théâtre de Paris, c'est rue Blanche dans le 9e arrondissement, pas loin de Pigalle, mais vous connaissez ça.
Je connais un peu ce quartier, effectivement, mais pas pour les raisons qu'on pourrait imaginer. Merci Thierry Geffrotin. À vos côtés, certainement connaissez-vous ce freluquet qui, à mesure que se rapproche la date de la fin de son contrat, se montre de plus en plus insolent avec sa hiérarchie. Dire qu'il devient un fake ne serait pas exagéré. Mais Grégoire est notre journaliste high-tech, vous avez...
Votre journaliste quoi ?
High-tech.
Ah, vous avez dit high-tech.
Grégoire est notre journaliste high-tech.
Ah, vous avez dit high-tech.
Ben non, j'ai pas dit high-tech en fait. Alors Grégoire Martinez, si vous voulez ouvrir votre bouche pour dire n'importe quoi, on continue. Alors, Martinez, les vacances d'hiver ont commencé vendredi et Grégoire, vous avez fait une sélection de quelques applications pour ceux qui sont ou ont prévu d'aller au ski.
Exactement, et la première chose qu'on veut savoir quand
la
on
météo.
Va... Exactement, la non, météo.
La météo
il y a une application spéciale pour ça, elle a été développée par Météo France. Elle s'appelle tout simplement Météo France Ski et Neige. Et elle vous permet d'avoir pour chaque station la météo pour les 14 prochains jours, l'enneigement en haut et en bas du domaine skiable et le nombre de pistes qui sont ouvertes en fonction de leur catégorie. Est-ce qu'elles sont bleues, est-ce qu'elles sont vertes, est-ce qu'elles sont rouges ou est-ce qu'elles sont noires. Et puis il y a même des informations pratiques sur la station pour contacter l'office du tourisme par exemple. Et l'avantage, eh bien, c'est que cette application elle est très bien faite. Si on regarde par exemple ce matin le temps qu'il va faire aujourd'hui à Saint-Lary-Soulan, vous savez c'est dans les Pyrénées.
Pyrénées
exactement, et ben on voit qu'il va pleuvoir jusqu'à 13h, donc météo pas terrible, mais en revanche le risque d'avalanche est limité, niveau 2, et il y a de la neige à tous les niveaux des pistes.
Et si justement on veut pouvoir se retrouver sur les pistes, il existe aussi une application.
Et ben oui, ça existe aussi, hein. Le plus simple là, c'est de télécharger l'application GPS on Ski Map, c'est disponible sur iPhone et Android, et ça,
génial.
Voilà, ça va vous proposer en fonction de la station dans laquelle vous êtes de télécharger les plans qui sont disponibles. Alors vous avez bien sûr ceux des pistes pour vous repérer, et puis vous avez
avec
aussi
les petites pistes en couleurs, les noires, les rouges,
exactement.
Les bleus.
Ah
oui, parce
les
que si t'as en... pas les couleurs, c'est horrible ça. Passer par
oui,
là,
ça peut être dangereux.
Exactement. Et puis surtout, vous pouvez vous localiser vos amis. Du coup, si vous partez, si vous divisez pour
c'est
faire
génial,
du ski,
parce
si vous faites
toujours
groupes,
les gens,
bah voilà. Vous pouvez
et moi, je les retrouve toujours. Je vais au resto d'altitude, je commande une grosse fondue, et bizarrement, tout le monde me retrouve là.
Ben voilà. Enfin, donc vous pouvez vous retrouver directement dans l'application.
Merci beaucoup, Grégoire Martinez et Varoc. si on ne veut pas aller au ski ou on n'a pas les moyens et qu'on a envie de tout simplement faire plaisir.
Mais bien sûr.
On allume son iPad.
Un petit hommage à Tommy Ungerer. Il était illustrateur, peintre, caricaturiste. Tommy Ungerer est décédé samedi à l'âge de 87 ans. Et dans sa biographie, des livres pour enfants devenus des albums cultes comme Les Trois Brigands ou Otto, mais aussi des ouvrages érotiques, des dessins de presse. Bref, une œuvre dense, diverse, empreinte d'intelligence et d'esprit critique. Alors de son enfance, il garde deux blessures. La mort de son papa, il avait 3 ans à l'époque, et puis l'annexion de l'Alsace, où il vit par le Troisième Reich. À l'école, il suit alors l'enseignement des nazis. Et dans un documentaire intitulé 39-45, La guerre des enfants, dont je vous avais parlé, qui était diffusé l'an dernier sur France 3, et dont vous retrouverez de larges extraits sur YouTube notamment, il racontait ses années.
Sur le niveau de l'identité, nous parlions le français à la maison, quoi que ce soit défendu, j'étais français à la maison, j'étais alsacien dans la rue et allemand à l'école. J'ai passé 4 ans avec 3 identités. C'est quand même quelque chose qui vous ronge à la longue.
Et on s'en remet après quand même ?
Non, jamais. J'ai des cauchemars toutes les nuits. Peut-être 2 fois par an, j'ai un bon rêve.
Eh bien, cette période, elle a fait naître chez lui un sentiment d'indignation qui ne le quittera jamais. Il est parti pour New York, où il est devenu célèbre, notamment pour son travail d'affiche, à travers lesquels il milite contre la guerre du Vietnam ou contre la ségrégation raciale. La plateforme Culturebox a également ressorti ses dernières interviews, des entretiens dans lesquels il raconte avec son air si malicieux à quel point il aime trouver le mot juste, à quel point aussi il doute et aime douter. Et puis, donc vous pouvez retrouver toutes ces interviews sur Culturebox. Et puis en 2007, à Strasbourg, il y a un musée consacré à Tommy Ungerer qui ouvrait ses portes. C'est un lieu magique dans lequel vous pouvez admirer une partie des croquis, des textes qui lui ont permis de créer 140 livres et 40 000 dessins. Puis si vous avez des enfants, je ne peux que vous encourager à leur offrir Les Trois Brigands, notamment.
Évidemment, merci beaucoup Eva Rock, merci à toute l'équipe des Bons Tuyaux qui se reformera demain. Grégoire, ça y est, vous êtes un peu de meilleure humeur. Comment vous avez trouvé Eva ?
Limité ?
Ok.
C'est moche.
Il est 5h55, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de Céline Calvin.